Vous écoutez Radio France Internationale, 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Et bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
À la une de votre journal, des combats cette nuit à Goma.
Armes lourdes, armes légères, obus dont les détonations ont émaillé la nuit de la capitale du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. On fait le point dans un instant. L'autre titre ce matin, c'est le Gabon. Élection présidentielle, premier tour aujourd'hui, un peu plus d'un an et demi après le coup d'état opéré par le général Oligui Nguema, un chef de la transition qui est d'ailleurs candidat pour rester au palais présidentiel à Libreville. Dans ce journal également, la Tanzanie, le principal parti d'opposition, réfute les accusations de trahison portées contre son leader Tundu Lissou, arrêté mercredi et emprisonné depuis. Le Maroc, invité d'honneur du Salon du Livre à Paris ce week-end, nous racontera Olivier Roger. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports, on parle de la CAN des moins de 17 ans. On est au stade des demi-finales et vous entendrez Mo Salah, l'Égyptien qui vient de prolonger son contrat avec Liverpool. Les tirs ont cessé aux alentours de 4 heures ce matin, mais le début de la soirée et la nuit ont donc été marqués par des combats, ou en tout cas des bruits d'armes lourdes et légères hier à Goma, la grande ville de l'Est congolais, ville aux mains des rebelles de l'AFC M23 depuis la fin du mois de janvier. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour tout le monde.
Détonations de grande intensité qui ont été entendues dans plusieurs quartiers de la ville.
Oui, et qui à l'heure où l'on parle ont pris fin, semble-t-il, depuis 2h30, 3h, donc dans la capitale du Nord Kivu. Ces tirs d'armes dorées ont débuté dans la soirée, d'abord dans le quartier Ndosho vers Balindou. Ils se sont propagés dans plusieurs quartiers de l'ouest de Goma, situation qui a suscité une vive panique chez certains habitants, d'autant qu'ensuite il y a eu, vous le disiez, des tirs d'armes lourdes, des explosions d'obus entendues, signalées dans les quartiers Ndosho, Mugunga, en périphérie également du territoire de Nyiragongo. Des gomatraciens que nous avons joints disent s'être précipitamment réfugiés sous leur lit chez eux, ne pas savoir ce qu'il se passait réellement. Des sources sécuritaires affirment qu'il y a eu une incursion de groupes armés, Wazalendo et de militaires congolais, qui se sont heurtés aux éléments du M23, ce que confirme d'ailleurs ce matin le M23, le mouvement soutenu par le Rwanda, qui appelle au calme, qui dit que la situation est sous contrôle. Donc selon lui, les échanges de tirs se sont poursuivis, donc je vous le disais, jusqu'à à peu près 4 heures heure locale. Pour l'instant, difficile d'avoir un bilan précis de cette attaque.
Merci Vincent Dublange, et je rajoute que depuis quelques jours, d'autres combats sont signalés à d'autres endroits des provinces du Nord et du Sud Kivu, en particulier dans les territoires de Masisi et de Calais et Kabaret. Ce qui fait dire à l'AFC M23 que l'armée et ses alliés violent la trêve. Le gouvernement de Kinshasa, pour le moment, lui, n'a pas réagi. Tout cela alors que les discussions sous l'égide du Qatar cette semaine à Doha semblent patiner, d'après nos informations. À la RDC, dont le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapu, dénonce les violences commises dans l'Est par les hommes de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, mais aussi par les militaires congolais et leurs alliés Wazalendo. Entendu avant-hier par une sous-commission de l'Assemblée nationale française, Paul Nsapu appelle à mettre en place une enquête internationale en vue d'identifier tous les responsables de violences.
La CNDH et avec les organisations de droits de l'homme au niveau national et même international, nous demandons que des sanctions soient prises, ciblées, à l'endroit de tous les auteurs de toute cette souffrance, tous ces crimes imprescriptibles administrés à la population civile du Nord et Sud Kivu. Nous demandons également, bien sûr, une enquête internationale sur tout ce qui s'est passé là, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On constate que un pays a été agressé de façon formelle, agressé par un autre État. C'est une évidence. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, la CNDH dit, il faut aller vers une lutte acharnée contre cette impunité. Sinon, ça sera un perpétuel recommencement.
Paul Nsapu, le président de la Commission nationale des droits de l'homme de République démocratique du Congo, joint par Esdras Ndikumana, l'Est congolais également, où l'UNICEF s'alarme des violences sexuelles contre les enfants. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses, affirme l'agence de l'ONU, qui parle non pas d'incidents isolés, mais de vraies crises systémiques et de tactiques délibérées de terreur. L'UNICEF a recensé des milliers d'enfants victimes de viols et de violences sexuelles lors des deux premiers mois de l'année dans l'Est de la RDC, et des chiffres qui sont sans doute encore loin de la vérité, alors que les enfants représentent environ 40% des victimes de ces violences sexuelles. Un peu plus d'un an et demi après le coup d'État, le vote au Gabon. Aujourd'hui, premier tour ce samedi de l'élection présidentielle. Scrutin à l'issue duquel le pays ne sera plus dirigé par un président de la transition, mais par un président de plein exercice. Ce matin donc, alors que les bureaux de vote doivent commencer à ouvrir dans un peu moins d'une heure et demie, on compte 8 candidats, dont notamment le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, auteur du coup d'État en août 2023 contre Ali Bongo, et Alain-Claude Bilibinze, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Et au cœur de la campagne électorale qui s'est achevée cette nuit, il y a notamment eu des passes d'armes sur la politique économique menée lors de la transition. Charlotte Cossé.
Les pouvoirs publics actuels ne donnent pas la vérité. Il y a de la dette cachée, a affirmé à la télévision gabonaise l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo et candidat à la présidence Alain-Claude Bilibinze. On a trouvé un pays endetté à 7500 milliards, une dette creuse pour laquelle on n'a vu aucune infrastructure réalisée, réplique le camp du candidat Oligui Nguema. Concrètement, la dette est passée de 71% du PIB du pays en 2023 à 67% en 2024, selon Fitch. Cependant, l'agence de notation projette un nouveau rebond de cette dette cette année et l'année prochaine, en cause notamment, selon elle, la prévision de la baisse des revenus pétroliers et l'estimation de déficits budgétaires plus importants. Les autorités actuelles assument une politique très ambitieuse, par exemple avec le rachat de 2 compagnies pétrolières ou encore la création d'une compagnie aérienne nationale. Il y a quelques mois, le FMI s'inquiétait du caractère expansionniste de la politique budgétaire et la persistance de faiblesses structurelles et de gouvernance.
Charlotte Cossé, Fitch, qui a dégradé au début de l'année la note qu'elle attribue à l'économie gabonaise. L'agence américaine, en revanche, se veut rassurante après les annonces de Donald Trump. D'abord, le gel de l'aide extérieure américaine et puis plus récemment, les nouveaux droits de douane, finalement fixés pour le moment à 10% pour tous les pays africains. Fitch estime que ces mesures auront en fait un impact limité sur les économies des pays africains. Le président de la BAD, la Banque africaine de développement, lui, est un peu plus pessimiste. Akinwumi Adesina qui estime que les droits de douane américains provoqueront des ondes de choc pour les économies africaines et risque notamment d'affaiblir les monnaies locales. Un discours qu'il a prononcé hier à Abuja, à l'Université National Open of Nigeria. RFI, 7h37 à Dar es Salaam, en Tanzanie, où l'on en sait un peu plus sur ce qui est reproché à Tundu Lissu, le principal opposant, leader du parti Chadema, arrêté en milieu de semaine après un meeting dans le sud du pays et inculpé dans la foulée pour diffusion de fausses informations et pour trahison, ce qui est passible en Tanzanie de la peine de mort. D'après le commandant de la police générale du sud, où il a été arrêté, Tundu Lissu est en fait poursuivi pour des propos tenus l'an dernier, appelant à bloquer les prochaines élections par la confrontation. Pour Rugemeleza Nshala, avocat du parti d'opposition de Chadema, les autorités tanzaniennes n'ont en fait pas compris le message de Tundu Lissu qui appelle à des élections libres et équitables.
Chadema n'appelle pas au boycott. Le parti milite pour un nouveau système électoral qui garantisse le fait que celui ou celle qui dirigera le pays soit choisi à l'issue d'un scrutin libre et équitable. Des éléments prouvent que le processus électoral actuel favorise le parti au pouvoir. La présidente Samia Suluhu Hassan concentre trop de pouvoir, notamment celui de nommer la commission électorale et les superviseurs chargés d'organiser les scrutins dans les circonscriptions. L'opposition réclame donc une commission vraiment indépendante, libérée de toute influence présidentielle. Mais réclamer des élections libres et transparentes, ce n'est pas renverser le gouvernement, ce n'est pas non plus semer le chaos, c'est un droit démocratique. Tout ce que Chadema demande, ce sont des réformes. Le parti fait campagne pacifiquement pour cela, et c'est précisément cette mobilisation que les autorités ont voulu faire taire, en interdisant les rassemblements, puis en inculpant Tundu Lissu pour trahison.
L'avocat du parti Chadema en Tanzanie, joint par Christina Okello. Trahison, c'est aussi ce qui est reproché en Ouganda à Kizza Besigye, lui aussi opposant et lui aussi actuellement en détention. Il reste en prison. Hier, la justice ougandaise a rejeté sa demande de libération sous caution. Dans l'actualité ce matin des pays africains, également le Soudan, la guerre au Soudan, où des attaques imputées aux paramilitaires FSR, notamment dans un camp de déplacés de la région du Darfour, ont fait plus de 50 morts civiles hier, dont un certain nombre d'enfants, alors que l'on approche de la date anniversaire des 2 ans du conflit. Et puis avant les sports, dans une minute, on fait un crochet par Paris et le Grand Palais qui accueille sous sa grande verrière ce week-end le Salon du Livre, invité d'honneur, un pays africain, le Maroc, le royaume chérifien, où la littérature est dynamique, notamment les autrices, nous explique Olivier Roger.
Si le Maroc doit son statut d'invité d'honneur à la défection en dernière minute du Brésil, le royaume chérifien est tout sauf un faire-valoir. La littérature y est en plein renouveau. Latifa Mouftakir est la commissaire du pavillon marocain.
On s'est préparé pour cette mise à l'honneur. Donc, comme vous l'avez vu, on a aménagé un grand pavillon à cet effet. Nous sommes accompagnés d'une délégation de 120 auteurs qui seront présents ici avec nous.
Beaucoup de ces auteurs sont des autrices. Depuis quelques années, les femmes marocaines se sont imposées dans le paysage littéraire. Fedwa Misk, autrice.
Les femmes se saisissent beaucoup plus et beaucoup plus librement de l'outil fiction. Elles se sentent beaucoup plus libres, beaucoup plus à l'aise de parler de choses intimes. Ce sont aussi des récits et des témoignages qui donnent un aperçu sur la condition des femmes au Maroc.
Et dans une société encore très marquée par le conservatisme, la littérature féministe est parvenue à se créer, selon Fedwa Misk, un espace de liberté.
Il n'y a absolument aucun sujet tabou. On parle vraiment de tout. Et je pense même que la littérature est la plage la plus libre, beaucoup plus libre que le cinéma, elle est beaucoup plus libre que la télévision, elle est beaucoup plus libre que la musique.
Quant aux maisons d'édition, 34 d'entre elles sont présentes à Paris, l'occasion de proposer leur catalogue à leurs homologues françaises et de tisser des liens commerciaux.
Olivier Roger au Salon du Livre à Paris, où il est maintenant bientôt 6h42.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
Afrique Matin, à suivre, double dose de Madagascar. Reportage d'abord avec les familles expropriées par le chantier d'autoroute, la première du pays, entre Antananarivo, la capitale, et Tamatave, le plus grand port du pays. Ensuite, nous recevrons le photographe Riza Soul. Il expose à Paris ses clichés d'art sur la nuit malgache. Et puis la chronique des médias, avec Amaury de Rochegonde, on s'intéressera à la situation médiatique de l'Argentine. Mais tout de suite, ce sont les sports. Et les sports ce matin, c'est Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
En football, c'était le feuilleton de la saison du côté de Liverpool. Et il a trouvé son happy end. Mo Salah prolonge.
L'attaquant égyptien dont le contrat expirait à la fin de la saison met ainsi fin aux rumeurs sur son avenir. 2 années de plus d'après les médias anglais. À 32 ans, Salah veut encore vivre des émotions avec les Reds et notamment décrocher le titre cette saison.
Je l'ai dit en début de saison, je veux gagner la Premier League plus que tout. Je le veux tellement pour être honnête. Les supporters le méritent. La dernière fois que nous l'avons gagné, nous ne l'avons pas beaucoup fêté. J'espère que nous y parviendrons cette fois-ci. Il reste encore 7 matchs à disputer. Ce ne sera pas facile du tout car Arsenal rattrape aussi son retard. Nous allons donc donner le meilleur de nous-mêmes et j'espère que nous pourrons gagner. Je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai re-signé car je nous pense capables de remporter beaucoup de trophées ensemble à l'avenir. Continuez à nous supporter et nous donnerons tout.
Salah et Liverpool qui accueilleront dimanche West Ham à 13h temps universel. Les Reds qui comptent 11 points d'avance sur Arsenal à cette fin de la journée, à cette journée de la fin.
Le football aussi chez les jeunes africains. Antoine, il a fallu une séance de tir au but, mais la Côte d'Ivoire est en demi-finale de la CAN U17.
Les éléphantos s'offrent le tenant du titre, le Sénégal. 0-0 au score final et 5 tirs au but à 3. Une affiche plus tactique que spectaculaire, Mathias Reynal.
Les tambours des supporters se rendent coup pour coup. Dans les tribunes du stade municipal de Bereshid, plusieurs centaines d'Ivoiriens et de Sénégalais, les deux diasporas africaines les plus importantes du Maroc.
C'est la fête, on est quitté depuis Casablanca pour venir vraiment mobiliser pour la victoire des éléphants.
Mais sur le terrain, ce n'est pas la même ambiance. Les visages sont fermés, le match cadenassé, les tirs sont rares. Alors que l'on approche de la fin du temps réglementaire, le Sénégal rate 2 belles occasions. comme si cette rencontre n'avait pas assez usé les nerfs. Il faut aller au tir au but. La Côte d'Ivoire l'emporte et laisse exploser sa joie.
Je suis très 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 content aujourd'hui parce que Côte d'Ivoire ne peut jamais rater quelque chose dans sa vie.
En toute décontraction, lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des éléphantaux, Bassirikhi Diabaté.
Le plus important pour nous, c'est de voir les garçons progresser sur certains aspects. Et félicitations à eux face à une très belle équipe sénégalaise, bien structurée. Ils ont su faire preuve de caractère.
En demi-finale, les Ivoiriens feront face aux Marocains, qui joueront à domicile. Mathias Reynal, de retour du Bel Echid, RFI.
Maroc-Côte d'Ivoire, ce sera mardi. En attendant ce samedi, match de barrage pour la Coupe du Monde U17. Ouganda-Gambie à 16h temps universel et Égypte-Angola à 19h TU.
Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports. Un reportage à Madagascar dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce samedi 12 avril. Les États-Unis et l'Iran entament des discussions sur le dossier du nucléaire iranien. Et cela se passe à Oman. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, dit Donald Trump. Le président américain qui menace d'une opération militaire américaine en cas d'échec de ses pourparlers. Elles mettront en tout cas ces discussions face à face, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient et le ministre iranien des Affaires étrangères. Et ce seront les premières discussions à ce niveau entre les deux pays depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. C'était en 2018. L'Argentine conclut un accord avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 20 milliards de dollars. La Banque mondiale y ajoute 12 milliards et la Banque interaméricaine de développement, elle accorde 10 milliards de dollars à l'Argentine. Tout cela devrait permettre l'assouplissement du contrôle d'échange qui est en vigueur dans le pays depuis 2019. À Madagascar, donc, c'est un projet emblématique et controversé, voulu par le président Andry Rajoelina, celui de la première autoroute du pays entre Antananarivo, la capitale, et Tamatave, le principal port malgache sur la côte est, deux villes distantes d'environ 300 km, pour un projet présenté par les autorités comme un levier essentiel pour le développement du pays. Mais un chantier d'une telle ampleur se fait aussi au détriment de nombreuses familles expropriées sur le tracé de l'autoroute. Et désormais dans une situation dramatique, alerte une centaine d'organisations de la société civile. Reportage de Guillaume Fabry.
Depuis son jardin, Madeleine Razavinjamiadana, 74 ans, observe inquiète le balai des bulldozers en train de remblayer les rizières en face de chez elle. Dans sa commune d'Ambouimongarouve, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale, personne n'est venu l'informer du tracé de l'autoroute. Mais elle en est convaincue, ces parcelles vont être détruites car elles se trouvent à proximité immédiate du chantier.
Jusque-là, les terres nous permettaient de vivre dignement. La scolarisation des enfants en dépendait. Maintenant, nous allons être démunis comme les sans-abri qui sont en ville. Nous ne profiterons pas de cette autoroute parce que nous n'avons même pas les moyens d'aller à Tamatave. Ce projet ne profitera pas au monde rural.
À quelques kilomètres de là, d'autres paysans ont déjà perdu leurs champs et leurs rizières il y a 2 ans. Ils affirment avoir déposé des demandes de compensation, mais l'État n'est pas encore revenu vers eux. Andjanaïvo Randimbisson est père de 4 enfants.
Beaucoup de choses ont changé ici depuis qu'on a remblayé nos terres. Nous devons maintenant cultiver sur les plaines, mais elles sont beaucoup moins fertiles. Avant, nous pouvions gagner 200 000 ariars par semaine, mais aujourd'hui, ce revenu a été divisé par 10.
Au marché local, le riz et les légumes sont devenus plus rares, entraînant une hausse des prix.
Ce projet d'autoroute a un impact sur notre santé physique et mentale. Nos enfants font face à une insécurité alimentaire grandissante.
Après avoir été exproprié, il a décidé de participer lui-même au chantier pour subvenir aux besoins de sa famille. Contre 10 000 ariars par jour, le constructeur égyptien Samkret l'emploie ponctuellement pour planter du gazon le long des talus de la future autoroute. Cette infrastructure, symbole de modernité, va stimuler le secteur industriel et créer des milliers d'emplois, promettent les autorités. Les paysans affectés seront indemnisés et accompagnés pour développer de nouvelles activités, assure le maire d'Ambouimongarouve, Cédera Gunther Razaounarivou, membre du parti présidentiel.
J'ai expliqué à la population que si votre terrain est concerné par l'autoroute, on peut demander au ministère de l'élevage, par exemple, de promouvoir l'élevage de poulets de chair, faire de l'aquaculture, en fait, diversifier leurs revenus. Donc, on cherche d'autres moyens pour essayer de compenser leurs pertes.
Début mars, 110 organisations de la société civile ont demandé au président de suspendre les travaux, le temps de consulter les communautés paysannes concernées. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera au Rwanda. Notre correspondante à Kigali s'est intéressée aux drones utilisés pour faciliter l'insémination artificielle. Mais tout de suite, on retourne à Madagascar, plongé dans la nuit malgache. À Antananarive, il est 7h50, une heure de moins ici à Paris. Et notre invité Afrique ce matin, c'est le photographe malgache Ridjasoul, photojournaliste depuis maintenant un quart de siècle, lauréat en 2022 du prix World Press. Il pratique aussi la photo d'art et ce sont ses clichés artistiques qui sont exposés pour la première fois à Paris à la Fondation H. Des clichés de la nuit malgache. Il répond ce matin aux questions d'Ouda Ibrahim.
Ridjasoul, bonjour.
Bonjour Ouda.
Vous photographiez d'abord parce que vous sentez cette nécessité de fixer les choses. C'est pour capter l'éphémère que vous cliquez sur les déclencheurs?
Comme tout photographe, notre mission c'est de capturer l'instant, d'arrêter le temps, ce temps qui défile trop vite pour nous. C'est notre avantage en tant que photographe, c'est vraiment de pouvoir capturer le temps, de le saisir pour qu'il puisse servir à mémoriser l'état du monde. C'est ça qui me plaît justement dans le fait de déclencher, d'appuyer sur le déclencheur.
Actuellement à Paris, vous exposez dans votre travail artistique, vous privilégiez la nuit. Elle est votre terrain de prédilection. Pour quelles raisons ?
Ce que j'aime dans le fait de déambuler la nuit, de faire des photographies la nuit, c'est de pouvoir saisir des choses, des situations, photographier des gens qu'on ne voit pas forcément le jour. Il y a une population de noctambules qui préfèrent vivre la nuit et dormir le jour. Et c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir témoigner de ce qui se passe à Madagascar, la nuit, sous tous ses aspects, les aspects les plus poétiques comme les aspects des fois les plus trash.
Les photos exposées démontrent une partie intime, plus personnelle de votre travail. Ces photos ont été prises en marge de vos reportages. Elles transmettent une ambiance, une certaine atmosphère à travers ces photos. Vouliez-vous raconter des histoires ?
Pour le coup, concernant l'exposition « La nuit porte la lumière », je ne voulais pas forcément raconter des histoires. C'est vrai que ma formation est liée à la photographie documentaire. Je suis un photographe documentaire, un photojournaliste. Je suis formé pour raconter des histoires, pour témoigner de ce qui se passe dans mon pays, Madagascar. Mais pour cette exposition-là, j'avais vraiment plutôt envie de juste arrêter le temps et que les gens prennent le temps justement de poser un regard poétique sur Madagascar sans qu'il n'y ait de jugement, sans a priori, sans qu'il y ait de raison de vouloir expliquer les choses.
Raconter l'intime est-il plus difficile pour vous ?
Alors, je crois que ce n'est pas tellement difficile de raconter son intimité, pour autant qu'on accepte de raconter son intimité, pour autant qu'on n'ait pas trop de pudeur. Je crois que c'est plus difficile d'être journaliste comme je le suis, de devoir témoigner avec objectivité de ce qui se passe, des problématiques sociales, culturelles et économiques de Madagascar. C'est assez compliqué, je trouve. J'adore faire ça aussi. Mais pour moi, parler de l'intimité, parler de ce que je vois, de comment je vis, et la photographie est un médium formidable pour pouvoir raconter sa vie, raconter l'intime dans sa vie personnelle.
À Paris, vous exposez la vie, la beauté, les gestes fugaces, la nuit, et beaucoup de vos photos sont en noir et blanc. Pourquoi avoir opté pour ce choix ?
En fait, j'ai commencé la photographie il y a 25 ans maintenant, et en installant un laboratoire argentique, en utilisant des films argentiques noir et blanc, parce que c'était plus facile de pouvoir développer soi-même et tirer ses photos. Et du coup, le noir et blanc est devenu ma façon de voir le monde. En fait, finalement, c'est devenu mon sacerdoce en tant que photographe. Le noir et blanc, pour moi, encore une fois, plus poétique, je trouve. Pour moi, c'est la photographie, quoi. C'est rendre les choses abstraites.
Votre esthétique est toujours basée sur le réel, mais avec un penchant indéniable pour la poésie. Qui sont les photographes qui vous ont nourri ?
Alors, j'ai été plutôt influencé par, on va dire, des photographes documentaires, c'est vrai. et surtout des photographes qui aiment déambuler. Je pense notamment à ce photographe français d'origine slovène qui s'appelle Claudis Luban, qui a beaucoup photographié les Balkans, l'Europe de l'Est. Et j'aime cette façon de travailler en noir et blanc, où on s'attache à un sujet, mais sans pour autant vouloir dénoncer quelque chose. On est là juste avec son appareil photo et on capte des moments de vie. Et j'aime les photographes documentaires aussi, qui sont dans l'intimité, comme Antoine Dagata, voilà, qui photographie tous ses penchants, ses addictions, qui parle de sa vie, en fait. J'aime beaucoup ce genre de photographie. Ce sont ce genre de photographies qui m'ont beaucoup influencé à mes débuts de photographe, et jusqu'à maintenant, d'ailleurs.
Photographier un endroit, c'est photographier l'âme du lieu. Dans votre travail, vous avez toujours voulu saisir les contradictions de Madagascar et de ses habitants. Comment pourriez-vous décrire l'âme de ce pays ?
Justement, j'ai un peu cette obsession, en tant que photographe à Madagascar, d'utiliser la photographie pour essayer de trouver une réponse à cette fameuse question « C'est quoi être malgache maintenant au XXIe siècle ?» J'utilise toujours la photographie pour saisir, en tout cas faire semblant de pouvoir saisir et comprendre quelle est l'âme de Madagascar.
Rizzasoul, merci.
Merci à vous.
Le photographe malgache Rizzasoul avec Ouda Ibrahim. Et puis tout autre chose maintenant pour terminer cette demi-heure ensemble. Nouveau rendez-vous depuis quelques semaines à cette heure-ci, la chronique des médias. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour.
On parle ce matin de l'Argentine, du président Milei, qui fait face à sa troisième grève générale et assume une forme de trumpisation face aux médias.
Oui, on a tous en tête la tronçonneuse de Javier Milei, symbole de coupe sombre dans les dépenses publiques. Eh bien, cette tronçonneuse a été offerte à Elon Musk, qui n'a pas manqué de la brandir à son tour. Entre Trump et Milei, il y a plus que des affinités idéologiques, même volonté de dérégulation, même tendance anti-woke et climato-sceptique, même défiance envers les organismes internationaux et les consensus scientifiques, comme le prouve la sortie des deux pays de l'OMS. Depuis l'investiture de son homologue au Capitole où il était présent, l'Argentin multiplie les signes de soutien. Il dit même comprendre le relèvement des tarifs douaniers que l'Argentine va pourtant subir en tant que membre du Mercosur. Et s'il n'a pas arrêté le financement de Voice of America, décision d'ailleurs suspendue par la justice américaine cette semaine, il a fermé TELAM, l'agence de presse nationale.
Et Reporters sans frontières a émis un droit d'alerte sur l'Argentine.
Oui, alors on ne peut pas dire que ce pays soit une priorité pour l'ONG. Ce n'est que le 66e pays sur 180 et la liberté de la presse y est à peu près respectée, notamment quand il s'agit de couvrir des manifestations ou des grèves générales. Mais il y a des signes inquiétant alors que l'Argentine était à la 40e place en 2023, juste avant l'élection de Milei. D'abord, comme Trump, le chef d'État argentin a tendance à insulter et à stigmatiser les journalistes ou à les traiter d'ennemis, ce qui favorise l'agressivité de la police. Ensuite, il a levé les dernières barrières anti-concentration qui s'imposaient aux grands groupes médias qui peuvent désormais acquérir autant de licences de télé ou de radio qu'ils le souhaitent, ce qui ne peut que renforcer la propriété autour de groupes comme Clarine ou la chaîne Téléfé.
Amaury, les médias publics argentins sont aussi dans le collimateur.
Oh, il s'agit bien sûr de revoir leurs dépenses à la baisse, mais cela se traduit par des licenciements et des budgets de programmes décimés, comme on a pu le voir sur Canal Siete ou la Radio Nationale. Et puis, il y a ce qui ne relève pas que du symbolique, c'est la destruction de ce monument en Patagonie à la gloire du journaliste anarchiste Osvaldo Bayer, connu pour avoir enquêté sur les mouvements sociaux et la répression de 2000 travailleurs pendant la dictature de 1976 à 1983, une destruction qui s'accompagne d'un révisionnisme de Milei, censé lutter contre une hégémonie culturelle de la gauche. Pour lui, il n'y a pas eu 30 000 disparus pendant la dictature, mais 4 fois moins, une réécriture de l'histoire qui signe une filiation avec l'extrême droite.
Amaury de Rochegonde, merci. C'était la chronique des médias sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Si tu veux la paix, prépare la guerre, nous dit l'antique adage romain. Il faut créer une armée européenne, affirme l'ancien officier français Guillaume Ancel, tandis que l'historien Stéphane Audouin Rousseau s'intéresse à l'expérience combattante à hauteur d'homme. Une approche intelligente, sensible, ou bien une banalisation du fait guerrier.
La marche du monde. Valérie Nivelon,
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Selman Faris et Sofian Fanen sont nos invités. Selman Faris présente son album Kaplan, voyage vers l'Est. Kaplan signifie tigre en turc. Une humeur féline, héritée du papa, le flûtiste Kutsi Aguner. De son côté, Sofian Fanen caracole sur du dancehall français, du frafra ghanéen et du reggaeton colombien. C'est la fête.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.